C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles de Radio Campus Paris. Une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité avec un zoom sur ce qui se fait pour chacun en Île-de-France. Ça y est, c'est l'hiver. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre. Vous croyez que l'hiver est arrivé depuis le mois d'octobre, non? Détrompez-vous, il s'installe bien là, maintenant, pour 3 mois. Si ça peut vous rassurer, Météo France considère que l'hiver démarre le 1er décembre et dure jusqu'au 28 février. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je parle d'hiver et de Météo France. Eh bien, ma question pour vous est la suivante. Nous sommes le 21 décembre. Qu'est-ce que vous avez prévu de voir prochainement? Saviez-vous que l'activité culturelle bat son plein à Paris et dans sa banlieue pendant les 2 prochaines semaines? J'ai toujours été surpris de voir que la vie ne s'arrête pas en Île-de-France et encore moins la vie culturelle pendant cette pause hivernale. Les expositions sont encore très présentes pendant les 2 prochaines semaines. Et puis a priori, c'est plutôt normal d'aller voir un spectacle le 24 ou le 31 décembre. Plusieurs fois, j'ai été surpris d'entendre qu'un tel ou une telle jouait le réveillon de la Saint-Sylvestre. Cette année, par exemple, la Biennale des Arts Numériques se poursuit jusqu'au 7 janvier. Nous avons eu l'occasion de couvrir l'inauguration avec l'équipe. Je pense aussi au festival Africolor, le festival de toutes les Afriques du monde, qui se finit le mercredi 24 décembre à Bobigny avec un Noël mandingue. Oui, c'est dans l'art, votre émission vous prouve que la vie culturelle ne s'arrête pas, que ça soit à la pause estivale ou hivernale. Non, la culture francilienne est bien là, présente, accessible, que vous soyez chez vous, au chaud, à travers la musique, la littérature ou la bande dessinée, mais aussi pas loin de chez vous, avec les arts visuels, les arts de la scène ou encore l'architecture. Chères auditrices, chers auditeurs, déjà fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qui se dit, ce qui se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, et c'est sur Radio Campus Paris. Je vous guide dans les profondeurs d'une gare emblématique du Grand Paris Express. Isnel nous parle de Jamiroquai, notamment en concert en ce moment. Hugo s'occupe des jeux vidéo et nous dit ce qu'il a pensé du dernier Legends Pokémon Zelda. Diane nous parle du phénomène médiatique incontournable, la Starac. Orion, lui, s'est rendu dans les salles obscures voir Les Enfants Vont Bien. Votre tour de l'actualité culturelle vous attend bien évidemment ce mois-ci une nouvelle fois. C'est dans l'art, en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, sur radiocampusparis.org, sur le canal Campus en DAB+, et bien évidemment sur le 93.9 FM. Amis curieuses, amis curieux, top chrono pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Pour m'accompagner ce soir autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Corian.
Bonjour.
Diane.
Bonsoir.
Hugo.
Salut, salut.
Isnel.
Bonsoir.
Corian, il faut pas être aussi sévère comme ça. Il faut être détendu, hein. C'est la vie, c'est cool.
Bonsoir.
Sur les Starting Blocks pour nous présenter ce qui leur fait leur actu culturelle. À la technique, dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa qui un jour parlera dans ce micro, j'y crois. Et je suis Fabrice. Ça va, tout le monde?
Ouais, très bien.
Oui. Trop, trop bien.
Ça fait plaisir de vous voir. Je vous le dis assez souvent, mais là, je peux vous le dire en live encore.
T'es encore plus heureux de nous voir.
Ouais, grave, parce que c'est la dernière en vrai.
La dernière de 2025.
C'est la dernière de 2025.
C'est dans l'art continu, c'est pas la
et
fin.
Et on a un bonnet de Noël avec nous qui sentit. Merci Diane de l'avoir.
J'allais dire qu'on avait prévu faire un truc spécial Noël avec des pulls de Noël. J'étais la seule à ramener un truc de Noël.
Non, t'as pas précisé les pulls de Noël, je suis pas d'accord.
On a dit des bonnets de Noël et j'étais la seule.
J'ai ramené du chocolat, arrête.
C'est une émission de soleil Wish.
Voilà.
De Noël Wish, pardon.
Noël Wish.
Vraiment, Wish, pas possible avec moi. Genre, on n'est pas compatible. Allez, une heure dédiée à l'art qui commence dès à présent.
Architecture,
sculpture, musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Léa, vous le disiez, il y a 4 semaines, chaque bénévole prend ses quartiers dans cette émission et Corian, a priori, lui, a sa place réservée dans les salles obscures. Ce mois-ci, Corian, qu'est-ce que tu es allé voir?
Je suis allé voir le film Les Enfants Vont Bien de Nathan Ambrosioni.
J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie.
Suzanne ?
Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante.
Donc vous allez pas aller la chercher ?
Non.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants ? Qu'est-ce que je suis censée faire là ?
Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ.
Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants ?
J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi !
Bon, déjà, avant toute chose, je m'excuse, voilà, c'est bientôt les fêtes. Comme on l'a dit, l'ambiance devrait déborder de joie et de cadeaux. Et j'aborde un film sur une disparition, des enfants désœuvrés et une femme au bout de sa vie. Soyons clairs, l'idée, c'est pas de gâcher la magie de Noël, vraiment pas. C'est juste que le film m'a marqué et il fallait que j'en parle, mais je tenais à faire cette précision. Donc, Nathan Ambrosioni, c'est un jeune réalisateur de 26 ans. Et il s'agit ici de son troisième long-métrage, rien que ça. Son précédent, c'était Tony en famille. Où Camille Cotin tenait aussi le premier rôle, et dans celui-ci, les enfants vont bien. Elle campe Jeanne, une experte en assurance qui a une vie en apparence bien rangée, jusqu'à ce que sa sœur Suzanne, jouée par Juliette Armanet, qu'elle n'a pas vue depuis des mois, ne passe chez elle à l'improviste avec ses deux enfants. Le lendemain, Suzanne disparaît, en laissant un mot précisant qu'elle confie la garde de ses progéniteurs à sa sœur. Désormais, Jeanne devra apprendre à gérer avec ses énormes bouleversements dans sa vie. Donc j'ai découvert ce film sans rien en attendre, je n'avais vu aucun des longs-métrages précédents du réalisateur, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. La première chose qui me plaît, c'est son ambiance. Il y a une volonté d'infuser un suspense sous-jacent, une atmosphère diffuse, et j'aime ce genre de film qui tente de créer un ton particulier, sans passer forcément par des effets ostentatoires. Ça se ressent dès le départ en fait, rien que dans la façon de poser les bases de l'intrigue, il y a ce petit quelque chose un peu troublant. On ne pourrait pas encore vraiment dire pourquoi, mais un décalage est palpable, un léger grincement. Et au global, si vous le voyez, soyez attentif au choix de cadrage, au placement des acteurs dans la pièce, à la lumière. Des parties prises de mise en scène comme ça qui sont assez bien vues et mettent en place ce que j'appellerais une délicatesse froide, si vous me permettez cet oxymore. Alors, c'est pas non plus inspiré tout le film, je voudrais pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Certains moments pourraient même paraître un peu sages, mais je trouve qu'il y a quand même des choses à prendre, une certaine élégance, franchement. Dans les décors, déjà, il y a vraiment un travail pour qu'ils expriment des choses sur les persos et la relation entre eux. Il y a une scène comme ça que j'aime beaucoup, où l'un des deux enfants perd pied, parce que bon, je le rappelle, il a quand même, sa mère a disparu, quoi. Et donc il a un trop-plein d'émotions, il court à toute vitesse sur une route de campagne. Jeanne, sa tante, essaye alors de la rattraper, et ils finissent par s'écrouler dans les bras l'un de l'autre, au milieu d'un champ, de la terre labourée et de grandes bâches. Une sorte de no man's land un peu inquiétant, mais où tout peut encore être cultivé, symboliquement très fort.
Et donc, comme on a pu l'entendre dans la bande-annonce, il n'y aura pas d'enquête de police pour retrouver Suzanne, c'est bien ça ?
En effet. Le film aborde en fait un vrai état de fait en France, à savoir que quand une personne majeure disparaît, il faut qu'il y ait un caractère suspect et ou inquiétant pour qu'une enquête soit lancée. Et comme là, ça n'est pas le cas, mais Jeanne, comme les enfants, se retrouve contraint à devoir accepter le choix de Suzanne. C'est ce qu'on pourrait appeler le droit à disparaître. Il y a un moment où un policier tente d'enquêter de façon un peu informelle, mais bon, ça mène pas à grand-chose, parce que je pense que de toute façon, la recherche de la sœur, c'est pas ce qui intéresse le réalisateur. Non, on est sur un drame familial intimiste, pas sur un thriller policier. Cette disparition, c'est en fait un point de départ qui permet de soulever tout un tas de problématiques passionnantes, comme la place que l'on a dans une fratrie, comment on gère avec l'absence de nos parents, qu'est-ce que ça veut dire d'être à bout. Enfin voilà, ce sont toutes ces questions qui sont traitées de façon assez subtile et sans jamais en plus donner de réponses tranchées, quoi. Et il serait facile de tomber en plus dans un film moralisateur vis-à-vis du personnage de Suzanne qui décide de se séparer volontairement de ses deux enfants. Mais jamais on tombe là-dedans. Et tous les personnages ont leurs raisons, leurs failles et leur façon de gérer. Et sinon, Camille Cotin, eh bien son rôle de Jeanne, il n'est pas évident, il demande une sacrée palette d'émotions. Et elle le tient avec un mélange de charisme et de fragilité toute contenue. Les enfants, ils sont plutôt bons, surtout la plus jeune, je dirais, lui, ça dépend un peu des moments. Mais de façon générale, la relation qui s'installe peu à peu entre eux et Jeanne m'a pas mal touché. Bon, maintenant, je vais parler un peu plus du négatif. Voilà, il faut bien parler de tout.
CF, la dernière émission.
Donc j'ai déjà commencé à en parler, mais peut-être que ça mériterait parfois plus de radicalité, je dirais, de déborder de son cadre très maîtrisé. Il y a des moments où ça fait un peu film de bon élève, voilà. Mais c'est quand même contrebalancé par tout ce que je disais avant, ce travail assez subtil sur le ton, c'est nuancé. On pourrait aussi regretter quelques répliques un peu maladroites qui font très écrites, c'est dommage, parce qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ce soit un grand film. Mais je ne voulais pas conclure sur cette touche négative, donc allez le voir pour vous faire votre propre avis. Il mérite tout à fait qu'on le découvre, et si vous le pouvez, en salle bien sûr.
Les enfants vont bien, sorti le 3 décembre dernier avec Nathan Ambrosioni à la réalisation, casting Mona Chokri, Juliette Armanet et Camille Cotin. C'est le troisième film du réalisateur. T'avais regardé les deux autres ?
Non, c'est le premier que je découvre. Donc,
D'accord, ok. T'as pas regardé Tony en famille?
Non, ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça
je me suis, peu, j'ai hésité à l'occasion d'y aller parce que j'aime bien Camille Cotin.
Mais ouais. Comme il y a Camille Cotin, oui, ça a fait un petit peu parler de lui. Et surtout, voilà, ce jeune réalisateur qui a, en fait, voilà, il a 26 ans. Donc quand il avait fait Tony en famille, il avait encore moins. C'était il y a 2 ans, donc peut-être 24 ans. Et c'était déjà son deuxième long métrage. Donc il y avait quand même un truc assez surprenant. Avec lui, je sais qu'il y avait un truc, genre c'était le réalisateur le plus jeune qui avait reçu la pense sur recette aussi, donc c'est quand même pas rien.
Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez, Isnel ?
Déjà, le parcours, c'est incroyable à 26 ans d'avoir 3 longs métrages comme ça. Je pense à des amis qui sont aussi dans l'industrie du cinéma qui rêveraient d'avoir un tel parcours. Donc déjà, je suis hyper admirative. Et j'ai aussi trouvé ça super intéressant, la remarque sur la disparition des personnes majeures qui ne sont pas recherchées par la police. Je regarde souvent des true crime. Après, ça se passe aux États-Unis, où souvent c'est plus le truc où quand c'est des adolescents qui disparaissent, bah là on va pas les chercher parce qu'ils ont peut-être fugué. Et j'avais pas pensé du coup au point de vue sur les disparitions des personnes majeures aussi. Oui. Donc vraiment intéressant.
Mais en fait, j'ai vu que c'est ce qui avait déclenché un peu l'envie du film pour le réalisateur en voyant un article dessus. Et ça l'obsédait, cette idée de pouvoir disparaître comme ça, et quelles sont les raisons. Il trouvait ça hyper injuste, quoi, qu'il y ait la possibilité qu'il n'y ait pas d'enquête, quoi, pour les personnes qui sont endeuillées, d'une certaine manière, quoi, et qui ne savent pas si elle est morte ou pas, la personne. Donc ça l'obsédait, il en a fait un film. Et comme je le disais, voilà, c'est pas... Le film ne ressemble pas du tout à quelque chose d'un peu comme un thriller ou... Il y a un certain suspense quand même, parce qu'on est toujours dans ce truc, est-ce qu'elle va revenir ou pas voilà, donc il y a toujours un peu cette tension. Mais c'est un film très, très sur l'humain, très sur, voilà, sur les non-dits et tout.
Diane ?
Moi, c'est marrant parce que j'ai vu les affiches dans le métro de ce film. J'ai pas regardé du tout regarder la bande-annonce. Je me suis dit, je me laisserai découvrir et surprendre pendant l'émission. Mais c'est marrant que ce soit un peu pendant Noël, parce que moi, j'en parlais avec ma sœur. Pour moi, genre, Noël, c'est un peu comme Voldemort dans ma famille. Genre, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. C'est le mot et le moment où ça regroupe potentiellement toutes les tensions, toutes les complexités, etc.
C'est tellement universel, ce que tu dis.
Ouais, et en fait, c'est marrant que ça arrive pendant Noël, enfin, pendant les fêtes, parce que je pense que ça regroupe beaucoup de... problématique et beaucoup de tensions, et des personnes qui disparaissent ou qui ne parlent plus à une personne du jour au lendemain, etc. Donc ouais, moi je suis curieuse d'aller le voir. J'avais entendu parler de Tony sans famille et je l'ai enregistré dans mon truc de l'accès en VOD de ma médiathèque pour le regarder. Je l'ai pas encore regardé, mais du coup ça me donne envie d'aller déjà regarder le travail de Nathan en plus en détail.
Tony en famille.
Oui, Tony sur la famille. Excusez-moi.
Hugo.
Moi, j'avoue, au début de ta chronique, j'étais un peu dubitatif, surtout quand t'as parlé du fait que ouais, c'était un peu triste et tout, mais en réalité, je trouve que ta chronique, elle a totalement sa place dans cette émission, parce que justement, ce que disait Diam, c'est que ouais, Noël, c'est un moment où on se réunit, mais c'est aussi un moment où il y a des tensions qui éclatent. Et en fait, c'est un moment très social, très fractal. Et en vrai, tu m'as grave donné envie d'aller voir le film pour ça. Et tu parlais au fait du fait qu'elle était à bout. Et je trouve que ça montre un peu le poids qu'on fait reposer aussi peut-être sur les femmes. Et le fait que si elles partent, comment on fait, quoi.
Oui, c'est vrai que le film traite complètement de ça aussi. Ouais.
Quand tu as commencé ta chronique, j'ai eu un écho avec ce dont on avait parlé avec Sibylline de Sixteen Danos. J'ai l'impression qu'ils se font un peu écho, les deux films, cette charge, en fait, le fait d'être une femme et d'avoir énormément de choses qui nous pèsent. Mais pour le coup, Raphaël, Sibylline d'un côté, et puis pour le coup, Jeanne, Suzanne de l'autre, c'est encore autre chose. Mais ce sur quoi j'ai aussi tiqué, c'est le droit à disparaître. Et il y a un débat qui se passe dans ma tête. Hein. C'est un délire. Là, c'est en mode, ils ont vraiment le droit de disparaître.
Peut-être le mois prochain, on aura pu fabriquer le droit à disparaître.
Moi, j'aime bien l'idée de droit à disparaître. Je trouve ça un peu poétique.
Même quand t'as deux enfants.
Mais ça, oui.
J'ai pas dit que c'était bien. J'ai juste dit que je trouvais ça poétique. Calmez-vous.
Je sais pas à quel point ça, le film est réaliste là-dessus par rapport aux enfants. Là, dans le film, en tout cas, il part du principe que, mais comme ils sont pas en danger, les enfants, et que la sœur les a confiés, enfin, la personnage jouée par Julie Armanet les a confiés à sa sœur, en fait, ils sont hors d'état de danger, on va dire. Donc là aussi, il n'y a pas abandon d'enfant, quoi. En fait, faut juste qu'ils trouvent un nouveau responsable légal. Mais je sais pas ça, si à quel point ça respecte ou pas, on va dire, la façon dont ça
serait
géré.
Des fois, je me dis que je suis plus responsable que des personnes qui ont des enfants. Et...
on va pas ouvrir ce débat là. Vraiment pas. Merci Corian, si vous avez envie d'aller le voir, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bande dessinée, jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Un générique mythique pour un phénomène télé toujours bien présent. Ce mois-ci, Diane, tu te penches sur la Starac.
Exactement. Alors souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés, nous sommes le 20 octobre 2001 et se lançait ce soir un tout nouveau programme sur TF1. Je nomme la Star Academy. On y découvre Jennifer, Olivia, Mario ou encore le non plus moins célèbre Jean-Pascal. On commençait à découvrir le quotidien de ces académiciens avec des cours de théâtre, de sport, de chant pour les faire devenir les nouveaux chanteurs de demain. À la fin de plusieurs semaines de prime, d'évaluation et d'élimination, grâce au choix du public pour le ou la gagnante, un contrat avec une maison de disques à la clé. Alors au fil des années, ce programme a marqué les esprits avec des duos et des prestations de haut vol comme celle de Grégory Lemarchal sur SOS d'intérieur en détresse. Elle a fait émerger des artistes comme Nolwenn Leroy, Sophia Essaidi ou encore Olivia Ruiz. Cette monture, elle a duré jusqu'en 2008 et chaque prime se sont enchaînés avec des prestations toujours très attendues par les spectateurs. Mais après une pause de plusieurs années, en 2022, après un confinement, à regarder toutes les quotidiennes de la Star Academy sur YouTube, on a entendu ça.
Tu passes de l'anonymat total à la lumière qui brûle tout sur son passage. Star Academy est devenue incontournable.
Bienvenue à la Star Academy.
Nikos l'avait annoncé, c'était officiel, la Star Academy était de retour. On allait enfin retrouver le château de Damary Lillis, les cours de danse, les évaluations de théâtre et les plateaux chantés dansés. Le réel phénomène était de retour parce que oui, la Starac, c'est pas juste une émission, c'est un phénomène de société. Un vrai téléfilm qu'on suit avec des rebondissements, des préférés et ceux qu'on ne supporte pas. Et ce retour, il a été plus que positif parce qu'au bout de 2 saisons, des candidats qui sont devenus de réels artistes musicaux comme Marguerite l'année dernière ou bien Elena et Julien Lieb il y a 2 ans, et bien cette année, le 18 octobre, on a vu arriver de nouveaux élèves, de nouvelles têtes, de nouveaux univers artistiques, mais aussi de nouveaux profs comme Papy, prof de théâtre, et Jonathan Janvrin, prof de danse.
Un beau programme, dis donc. Ça me donne presque envie de tenter ma chance pour l'année prochaine.
Alors, sans vouloir te vexer, Fabrice, t'as une plus jolie voix en radio qu'en chanson.
Mais
tu pourras toujours faire comme moi et des milliers d'autres fans de cette saison, reproduire les primes chez toi avec une bonne tisane. Et surtout, tu pourras continuer à regarder les quotidiennes en faisant ressortir ton côté chippy quand Léo et Jeanne se prennent dans les bras. J'espère dire que quand cette émission sera diffusée, bah, ils ne seront pas éliminés de l'aventure. Alors n'ayez pas peur, devenez comme des millions d'autres téléspectateurs un vrai fan de la Star Academy. Qui sait, peut-être que entre 2 infos croustillantes, vous dénicherez un nouvel artiste à mettre dans votre playlist.
C'est vrai qu'en 2023, on a découvert Victorien qui a déjà sorti son premier album alors qu'il n'avait fait que 4 semaines au château. Ou l'année dernière, on a découvert Emma qui a déjà rempli l'Alhambra le 1er novembre dernier.
Oui, exactement. C'est pas pour le résultat qu'on regarde la Star Academy, mais bien pour chaque étape de cette aventure. Les quotidiennes, les évaluations, les masterclass et bien sûr les primes présentées par le seul, l'unique Nikos Aliagas.
Je valide Nikos, c'est vrai qu'il est très unique en son genre. Qui veut réagir, Team Starac ou pas? Allez, tiens Hugo.
Alors moi je regarde pas la Starac de base, mais mon meilleur ami à Toulouse, si, et du coup En vrai, j'aime bien les artistes qui sont sortis de la Star Academy. Je trouve ça intéressant. Des fois, je regarde pas la Starac, mais des fois, j'ai des articles qui en parlent et j'aime bien un peu les lire pour voir ce qui se passe. Ce qui fait qu'en fait, Marguerite, typiquement, elle est dans ma playlist. Queen Sheba a donné le go, comme on dit.
Isnel.
Pareil, j'ai grandi avec la Starac et la nouvelle star et tout. Donc, c'est vrai que le fait de voir ces émissions revenir, surtout pour la Starac, et fonctionner, c'est assez touchant. Et pareil, je regarde pas, mais je regarde plutôt via TikTok où il y a pas mal d'extraits qui passent. Et notamment, là, la séquence du moment, c'était un garçon qui avait un orgelé qui a super bien dansé. Oui, c'est ça, avec Aya Nakamura. Donc, pareil, c'est la petite découverte et tout. Donc, c'est pareil, plein de découvertes aussi. Et il y a pas mal de drama. Enfin, ça a l'air d'être vraiment intéressant, je trouve.
Carrément.
J'ai jamais regardé, je dois avouer, la Star Academy. Quand j'étais ado, j'étais plus The Voice. Je regardais un peu. À l'époque, j'aimais bien. Il y avait genre un peu de. Pareil, de drama et de. de tension prenante et tout. Il y avait aussi avec Nikos.
Ouais.
Qui me faisait trop rire. Mais la Star Academy, j'ai jamais regardé, j'avoue. Après, les grands noms. On va dire les plus connus qui se ressortent de la Star Academy, c'est qui ouais,
c'est Jennifer qui a gagné la saison 1. Il y a Olivia Ruiz qui a fait la saison 1 mais qui n'a pas gagné.
Nolwenn
Leroy aussi. Okay. Mais Sophie Issaidi, par exemple, elle n'a pas gagné, mais elle a fait pas mal de comédies musicales après. Grégory Marshall qui est un peu la star, on va dire, née de la Star Academy. Mais c'est con, mais par exemple, Moziman, il a fait la Star Academy.
Exact.
Il n'est pas chanteur, mais maintenant il est DJ. Et je crois qu'il a.
Chroniqueur radio aussi.
Chroniqueur radio à France Inter aussi. Mais par exemple, il a pas remasterisé, mais genre fait l'hymne de la saison 1. Pour la saison 1, l'hymne c'était Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Et il l'a un peu refait pour que ce soit un peu plus dans le. Même si Céline Dion est extraordinaire, mais pour que ce soit un peu plus au goût du jour de 2020. Et il y a Jérémy Chatelain aussi, qui je crois a fait la Starac, mais je ne sais plus, qui n'est pas chanteur, mais maintenant qui est producteur, qui produit pas mal de.
D'accord.
Enfin, qui est producteur, arrangeur, etc., qui produit pas mal de chanteurs. Donc, ouais.
Diane, je ne suis pas la Starac, je dois l'avouer. J'ai jamais regardé la Starac.
Mais en fait, c'est marrant parce que. Genre, par exemple, Hugo, il a dit je regarde pas la Starac, Internet, il a dit je regarde pas la Starac, mais en fait, vous regardez la Starac parce que vous suivez les trucs sur TikTok. Donc, même quand tu regardes pas les primes, en fait, tu suis quand même les
infos. Ça peut
te
rassurer, j'ai pas TikTok non plus. Pareil. Donc, là, en fait, depuis que ça a démarré, je ne sais pas du tout ce qui se passe.
Faut pas parler de son âge.
Bah, frère, j'étais en 2000, je regardais la télé. En plus, c'était à une époque où on ne t'interdisait pas de regarder la télé. Pas comme
si, il y avait les Peggy 13, 18 et tout.
Oui, mais maintenant, tu vois, on te dit moins de 6 ans, etc. Donc c'est très différent.
Oui, mais la nouvelle Starac, j'ai l'impression qu'il y a plus de hype que l'ancienne. Ou alors c'était juste que j'étais vraiment petite.
L'ancienne, c'était un truc de fou.
Après, je pense qu'il y a aussi une évolution de la part de la production. Genre, quand j'ai écrit ma chronique, je repensais à genre Jennifer, ils avaient vraiment tout un truc de poids et hyper stigmatisant sur le corps des femmes, etc.
Ah, oui,
c'est vrai,
sûr,
oui.
Alors que maintenant, bon, bah, ils sont. Enfin, pas dire qu'ils s'en foutent pas, mais il y a plus de liberté, même de la part des. Enfin, je repensais à, par exemple à Marguerite l'année dernière qui avait un discours hyper féministe et hyper libéré sur ça. Ou même à Clara qui a fait la saison de 2023, qui est une personne grosse et qui a dit. Durant les. Je sais plus si c'était pendant les trucs pas au parloir, mais dans les interviews ou durant les journées, ils disaient bah, je suis grosse, mais en fait je m'en fous. Mais c'est pour ça aussi que, enfin, c'est les cours de sport par exemple qui sont faits par l'Adi de Corée ces dernières années. C'est pas en mode faut que vous perdiez du poids, c'est juste bah en fait quand vous êtes un artiste tu cours partout, tu fais des concerts, faut
ouais,
savoir
que
il
faut de l'endurance,
faut que ton endurance et que ton souffle il soit ok parce que sinon tu tu t'es fatigué vite quoi.
Merci Diane. La Starac à suivre sur TF1 et TF1+, mais aussi sur les réseaux sociaux, on vient d'en parler. Legends, Pokémon Zelda, un mythique jeu qui anime plus que jamais Hugo. Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Nous continuons avec le tour de l'actualité culturelle, le cinéma et les arts visuels. À tout de suite.